Chapitre 10. Triomphe du bossu. C'était encore cette chambre du rez-de-chaussée où nous avons vu Aurore et Donna Cruz aux premières heures du petit souper. Aurore était seule, agenouillée sur le tapis, mais elle ne priait pas. Le bruit qui venait du premier étage avait redoublé depuis quelques instants. C'était le combat singulier entre Chaverny et le bossu. Aurore n'y prenait point garde. Elle songeait. Ses beaux yeux, fatigués par les larmes, s'égaraient dans le vide. Elle ne donna point attention, tant était profonde sa rêverie, au léger bruit que fit Donna Cruz en rentrant dans la chambre. Celle-ci s'approcha sur la pointe des pieds et vint baiser ses cheveux par derrière. Aurore tourna la tête lentement. Le cœur de la gitanita se serra en voyant ses pauvres joues pâles et ses yeux éteints déjà par les pleurs. « Je viens te chercher, » dit-elle. « Je suis prête, » répondit Aurore. Donna Cruz ne s'attendait point à cela. « Tu as réfléchi depuis tantôt ?»«
J'ai prié. Quand on prie, les choses obscures deviennent claires. »
Donna Cruz se rapprocha vivement.
« Dis-moi ce que tu as deviné, » fit-elle.
Il y avait là encore plus d'intérêt affectueux que de curiosité.
« Je suis prête, » répéta Aurore.
« Prête à mourir. »«
Mais il ne s'agit pas de mourir, pauvre petite sœur. »
Il y a longtemps, interrompit Aurore d'un ton morne de découragement, que j'ai eu cette idée pour la première fois. C'est moi qui suis son malheur. C'est moi qui suis le danger dont il est menacé sans cesse. C'est moi qui suis son mauvais ange. Sans moi, il serait libre. Il serait tranquille. Il serait heureux.
Donna Cruz l'écoutait et ne la comprenait pas.
Pourquoi, reprit Aurore en essuyant une larme, pourquoi n'ai-je pas fait hier ce que je médite aujourd'hui? Pourquoi ne me suis-je pas enfuie de la maison? Pourquoi ne suis-je pas morte?
Que dis-tu là? S'écria la gitanita.
Tu ne peux pas savoir, Flore, ma sœur chérie, la différence qu'il y a entre hier et aujourd'hui. J'ai vu s'entr'ouvrir pour moi le paradis. Une vie tout entière de belle joie et de saintes délices m'est apparue. Il m'aimait, Flore.
« Mais le sais-tu donc que depuis hier ?» demanda Donna Cruz.
« Si je l'avais su plus tôt, Dieu seul peut dire si nous eussions affronté les inutiles dangers de ce voyage. Je doutais, j'avais peur. Oh, folle que nous sommes, ma sœur! Il faudrait frémir, et non s'extasier, quand s'offrent à nous ces grandes allégresses qui feraient descendre sur terre les félicités du ciel. Cela est impossible, vois-tu, le bonheur n'est point ici-bas.
« Mais qu'as-tu résolu ?» interrompit la gitanita, dont la vocation n'allait pas dans le sens du mysticisme.
« Obéir, » dit Aurore, « afin de le sauver. » Donna Cruz était enchantée. « Partons, » s'écria-t-elle, « partons, le prince nous attend. » Puis, s'interrompant tout à coup, tandis qu'un nuage voilait son sourire. « Sais-tu, » dit-elle, « que je passe ma vie à faire de l'héroïsme avec toi ?» Je n'aime pas comme toi, certes, mais j'aime à ma manière, et je te trouve toujours sur mon chemin. » Le regard étonné d'Aurore l'interrogeait.
« Ne t'inquiète pas trop, » reprit Donna Cruz en souriant.
« Moi, je n'en mourrai pas, je te le promets. Je compte aimer ainsi encore plus d'une fois avant de mourir. Mais il est certain que sans toi, je n'eusse pas renoncé ainsi au roi des chevaliers errants, au beau Lagardère. Il est certain encore qu'après le beau Lagardère, le seul homme qui m'ait fait battre le cœur, c'est cet étourdi de Chaverny.
« Quoi ? »
voulut dire Aurore.
« Je sais, je sais. Sa conduite peut paraître légère. Mais que veux-tu ? Sauf Lagardère, moi je déteste les saints. Ce monstre de petit marquis me trotte dans la cervelle. »
Aurore lui prit la main en souriant. « Petite sœur, » dit-elle, « ton cœur vaut mieux que tes paroles. Et pourquoi d'ailleurs aurais-tu ces délicatesses altières de grande race ? »
Donna Cruz se pinça les lèvres.
« Il paraît, murmura-t-elle, que tu ne crois pas à ma haute naissance. »
« C'est moi qui suis mademoiselle de Nevers, » répondit Aurore avec calme.
La gitanita ouvrit de grands yeux.
« Lagardère te l'a dit ? »
murmura-t-elle sans même songer à faire des objections. Celle-là n'était pas ambitieuse.
Non, répondit Aurore. Et c'est là le seul tort que je puisse lui reprocher en ma vie. S'il me l'eût dit... Mais alors, fit Dona Cruz, qui donc?
Personne. Je le sais, voilà tout. Depuis hier, les divers événements qui se sont passés depuis mon enfance ont pris pour moi une nouvelle signification. Je me suis souvenue, j'ai comparé. La conséquence s'est dégagée d'elle-même. L'enfant qui dormait dans les fossés de Kélus pendant qu'on assassinait son père, c'était moi. Je vois encore le regard de mon ami quand nous visitâmes ce lieu funeste. C'était moi. Mon ami ne me fit-il pas baiser le visage de marbre de Nevers au cimetière Saint-Magloire? Et ce Gonzague, dont le nom m'a poursuivi dès mon enfance, ce Gonzague, qui aujourd'hui va me porter le dernier coup, n'est-il pas le mari de la veuve de Nevers?
Puisque c'est lui, ajouta la gitanita, qui voulait me rendre à ma mère.
Ma pauvre Flore, nous n'expliquerons pas tout, je le sais bien. Nous sommes des enfants et Dieu nous a gardé notre bon cœur. Comment sonder l'abîme des perversités? Et à quoi bon? Ce que Gonzague voulait faire de toi, je l'ignore, mais tu étais un instrument dans ses mains. Depuis hier, j'ai vu cela, et depuis que je te parle, tu le vois toi-même.
C'est vrai, murmura Dona Cruz qui avait les paupières demi-closes et les sourcils froncés.
Hier seulement, reprit Aurore, Henri m'a avoué qu'il m'aimait.
Hier seulement ? Interrompit la gitanita au comble de la surprise.
Pourquoi cela ? Il y avait donc un obstacle entre nous ? Et quel pouvait être cet obstacle, sinon l'honneur ombrageux et scrupuleux de l'homme le plus loyal qui soit au monde ? C'était la grandeur de ma naissance, c'était l'opulence de mon héritage qui l'éloignait de moi.
Dona Cruz sourit. Aurore la regarda en face, et l'expression de son charmant visage fut une fierté sévère.
« Faut-il me repentir de t'avoir parlé comme je l'ai fait ?» murmura Aurore.
« Ne me gronde pas !» fit la gitanita qui lui jeta ses deux bras autour du cou.
« Je souriais en songeant que je n'aurais point deviné cet obstacle-là, moi qui ne suis pas princesse. »«
Plût à Dieu qu'il en fût ainsi de moi !» s'écria Aurore les larmes aux yeux.
« La grandeur a ses joies et ses souffrances. Moi qui vais mourir à 20 ans, de la grandeur je n'aurais connu que les larmes. »
Elle ferma d'un geste caressant la bouche de sa compagne, qui allait protester encore, et reprit.
« Je suis calme. J'ai foi en la bonté de Dieu, qui ne nous éprouve pas au-delà des limites de ce monde. Si je parle de mourir, ne crains pas que je puisse hâter ma dernière heure. Le suicide est un crime que l'on ne peut expier, et qui ferme la porte du ciel. Si je n'allais pas au ciel, où l'attendrais-je? Non. D'autres se chargeront du soin de ma délivrance. Ceci, je ne le devine point, je le sais. »
Dona Cruz était toute pâle. « Que sais-tu ? » interrogea-t-elle d'une voix altérée.
« J'étais ici toute seule, répondit lentement Aurore. Je réfléchissais à tout ce que je viens de te dire, et à d'autres choses encore. Les preuves abondaient. C'est parce que je suis mademoiselle de Nevers qu'on m'a enlevée hier. C'est parce que je suis mademoiselle de Nevers que la princesse de Gonzague poursuit de sa haine Henri, mon ami. Et sais-tu, Flore, c'est cette dernière pensée qui m'a pris tout mon courage. L'idée de me trouver entre ma mère et lui, tous deux ennemis, m'a traversé le cœur comme un coup de poignard. L'heure viendrait où il faudrait choisir. Que sais-je? Depuis que je connais le nom de mon père, j'ai l'âme de mon père. Le devoir m'apparaît pour la première fois. Et sa voix, la voix du devoir, est déjà en moi aussi impérieuse que la voix du bonheur lui-même. Hier, je ne sais rien ici-bas qui fût capable de me séparer d'Henri. Aujourd'hui...
Aujourd'hui ? Répéta Dona Cruz, voyant qu'elle s'arrêtait.
Aurore détourna la tête pour essuyer une larme. Dona Cruz la regardait tout émue. Dona Cruz abandonnait ses brillantes illusions que Gonzague avait fait naître en elle, sans effort et sans regret. Elle était comme l'enfant qui sourit, à l'heure du réveil, aux chimères dorées d'un beau songe. « Ma petite sœur, reprit-elle, tu es Aurore de Nevers, je le crois. Il n'y a pas beaucoup de duchesses pour avoir des filles comme toi. Mais tu as prononcé tout à l'heure des paroles qui m'inquiètent et me font peur.
« Quelles paroles ? » demanda Aurore.
« Tu as dit, répliqua Dona Cruz, d'autres se chargeront de ma délivrance.
j'oubliais, fit Aurore. J'étais donc ici, toute seule, la tête pleine et brûlante. C'est la fièvre, sans doute, qui m'a donné ce courage. Je suis sortie de cette chambre. J'ai pris le chemin que tu m'avais montré, l'escalier dérobé, le couloir, et je me suis retrouvée dans ce boudoir où nous étions toutes deux naguère. Je me suis approchée de la porte derrière laquelle ces hommes t'appelaient. Le bruit avait cessé. J'ai mis mon œil à la serrure. Il n'y avait plus aucune femme autour de la table. « On nous avait éloignés, » dit Donna Cruz. « Sais-tu pourquoi, ma petite Flore ?»« Gonzague nous a dit, » commença la gitanita. « Ah !» fit Aurore en frissonnant. « Cet homme qui semblait commander aux autres, c'était donc Gonzague ?»«
C'était le prince de Gonzague. »
« Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, » reprit Aurore, « mais il a dû mentir. »«
Quoi supposes-tu cela, petite sœur ?»«
Parce que, s'il avait dit vrai, tu ne viendrais pas me chercher, ma fleur chérie. »«
Quelle est donc la vérité? Tu me rendras folle !»
Il y eut un silence, pendant lequel Aurore sembla rêver, le front appuyé contre le sein de sa compagne. « As-tu remarqué, » dit-elle ensuite, « ces bouquets de fleurs qui ornent la table ?»«
Oui, de belles fleurs. » »«
Et Gonzague ne t'a-t-il pas répété, « si elle refuse, elle sera libre ?»«
Ce sont ses propres paroles. » »«
Eh bien, » poursuivit Aurore en posant sa main sur celle de Donna Cruz, « c'était ce Gonzague qui parlait quand j'ai regardé par le trou de la serrure. Les convives l'écoutaient immobile, muet, tous la pâleur au front. » J'ai mis mon oreille à la place de mon œil. J'ai entendu. Un bruit se fit du côté de la porte.
« Tu as entendu ?» répéta Donna Cruz.
Aurore ne répondit point. La figure blême et doucereuse de Monsieur de Pérol se montrait sur le seuil.
« Eh bien, mesdames, » dit-il, « on vous attend. »
Aurore se leva aussitôt. « Je suis prête, » dit-elle. En montant l'escalier, Donna Cruz se rapprocha d'elle et dit tout bas.
« Achève ! Que parlais-tu de ces fleurs ?»
Aurore lui serra la main doucement et répondit avec un calme sourire. « De belles fleurs, tu l'as dit. Monsieur de Gonzague a des galanteries de grand seigneur. En refusant, non seulement je serai libre, mais j'aurai un bouquet de ces belles fleurs. » Donna Cruz la regarda fixement. Elle sentait bien qu'il y avait derrière ces paroles quelque chose de menaçant et de tragique, mais elle ne devinait point.
« Bravo, bossu! On te nommera roi des Tanches! Tiens bon, Chaverny! Ferme! Ferme! Chaverny vient de verser un demi-verre sur ses dentelles! C'est triché !»
On apportait les grands verres demandés par le bossu. Il y eut un long cri de joie. C'étaient deux vidres comme de bohème, dont on se servait l'été pour les boissons à glace. Chacun d'eux tenait bien une pinte. Le bossu versa dans le sien une bouteille de champagne. Chaverny voulut l'imiter, mais sa main tremblait.
« Vas-tu me faire perdre mes cinq petites filles ?» s'écria la Nivelle.
« Comme elle aurait bien prononcé qu'il mourut, cette Nivelle !» dit Navaille. « Dame !» riposta la fille du Mississippi. « On a assez de peine à gagner son argent. » Il y avait foule de paris engagés dans le cercle, et chacun était un peu de l'avis de la Nivelle. La Fleurie, qui n'était pas joueuse, ayant risqué la vie qu'il était temps de mettre le holà, il y eut un cri général de réprobation.
« Nous ne sommes qu'au commencement, » dit le bossu en riant. « Aidez monsieur le marquis à remplir son verre. »
Nocé, Choisy, Gironne et Auriol étaient autour de Chaverny. On emplit son vidre comme jusqu'au bord.
Et donc, soupira Cocardas junior, c'est perdre le vin du bon Dieu.
Quant à Passepoil, ses yeux blancs admiraient tour à tour la Nivelle, la Fleurie, la Desbois. Il murmurait à vide des paroles enflammées. Certes, cette organisation riche et tendre est faite pour inspirer beaucoup d'intérêt.
À votre santé, messieurs,
dit le bossu qui leva son énorme verre.
« À votre santé !»
balbutia Chaverny. Gironne et Nocé soutenaient son bras tremblotant. Le bossu reprit en saluant à la ronde.
Cette rasade doit être bue d'un trait et sans reprendre haleine. »
C'est un bijou que ce Péquer, pensa Coquardas.
Vous allez le tuer, dirent quelques voix de femmes.
Ferme, marquis, ferme, ferme, cria Nivelle pour ses actions.
Le bossu approcha le verre de ses lèvres et but sans se presser, mais d'une seule lampée. On battit des mains avec fureur. Chaverny, déjà soutenu par ses parrains, absorba aussi son vidre comme, mais chacun put augurer que c'était son dernier effort.
« Encore un !»
proposa le bossu, dispos et gai, entendant son verre.
« Encore 10 !» répondit Chaverny, chancelant. « Tiens bon, marquis !» s'écrièrent les joueurs. « Ne regarde pas le lustre !»
Il eut un rire idiot.
« Restez tranquille !» balbutia-t-il. « Arrêtez la balançoire et... empêchez le lustre de tourner. »
Nivelle prit aussitôt son parti. Elle était brave. « Petit trésor, dit-elle au bossu, c'était pour rire. On m'étranglerait plutôt que de parier contre toi. » Elle fourra son portefeuille dans sa poche et passa, accablant Chaverny d'un dédaigneux regard.
« Allons, allons !» fit le bossu. « À boire ! J'ai soif !»«
À boire !» répéta le petit marquis.
« Je boirai la mer. Arrêtez la balançoire !»
Les verres s'emplirent. Le bossu prit le sien d'une main ferme.
« À la santé de ces dames » s'écria-t-il.
« À la santé de ces dames !» murmura Passepoil à l'oreille de Nivelle. Chaverny fit un suprême effort pour lever son verre. Le vidre comme plein s'échappa de sa main tremblante, à la grande indignation de Coquardas.
« Est-ce pas pur » grommela-t-il. « On devrait mettre en prison ceux qui perdent le vin. »«
À recommencer !» dirent le tenant de Chaverny.
Le bossu offrit galamment son vidre comme qu'on emplit. Mais les paupières de Chaverny se prirent à battre comme les ailes de ces papillons martyrs que les enfants clouent à la tapisserie avec une épingle. C'est la fin.
« Tu faiblis, Chaverny !» s'écria Auriol.
« Chaverny, tu pâlis !» ajouta Navaille.
« Chaverny, tu chancelles ! Chaverny, tu t'en vas !
Hourra, le petit homme ! Vive Ésope II !
Portons le bossu en triomphe !»
Ce fut un tumulte général, puis un grand silence. On avait cessé de soutenir Chaverny. Son corps se prit à vaciller sur son fauteuil, tandis que ses mains amollies essayaient en vain de saisir un point d'appui.
« On n'avait pas dit que la maison tomberait » murmura-t-il. « La maison avait l'air solide. Ce n'est pas de jeu.
Chaverny bat la campagne.
Chaverny menace ruine. Chaverny perd plante.
Submergé, Chaverny. Chaverny disparu. »
Chaverny venait de glisser sous la table. Un second hurrah retentit. Le bossu triomphant leva le verre qu'on venait d'emplir pour le vaincu et l'avala, debout sur la nappe. Il était ferme comme un roc. La salle faillit crouler sous les applaudissements.
« Qu'est-ce cela ? »
demanda le prince de Gonzague qui s'approcha. Ésope II sauta lestement en bas de la table.
« Vous me l'aviez donné, monseigneur, » dit-il.
« Où est Chaverny ? »
fit encore Gonzague. Le bossu poussa du pied les jambes du petit marquis qui passait.
« Le voici !» répondit-il.
Gonzague fronça le sourcil et murmura.
« Ivre mort ! C'est trop ! Nous avions besoin de lui.
Pour les fiançailles, monseigneur ?
Repartit le bossu, qui chiffonna, ma foi, son jabot en grand seigneur, et salua en jetant son feutre sous l'aisselle.
Oui, pour les fiançailles, répondit Gonzague.
Palsambleu ! Fit Ésope II d'un ton dégagé, un de perdu, un de retrouvé. Tel que vous me voyez, monseigneur, je ne serai pas fâché de m'établir, et je m'offre à faire votre affaire.
Un grand éclat de rire accueillit cette proposition inattendue. Gonzague regardait attentivement le bossu, qui s'était campé devant lui, tenant toujours son vidre comme à la main.
« Sais-tu ce qu'il faudrait faire pour remplacer celui qui est là ? »
demanda tout bas Gonzague en montrant Chaverny.
« Oui, répondit le bossu, je sais ce qu'il faudrait faire. »«
Et te sens-tu de force ? »
commença le prince. Ésope II eut un sourire à la fois orgueilleux et cruel.
« Vous ne me connaissez pas, monseigneur, » dit-il. « J'ai fait mieux que cela. »